Une minute encore? OK, super. Donc, vous n'aurez pas l'image, mais je vais commencer en priant peut-être pour nous ce matin, pour que le Seigneur prépare nos cœurs. Éternel mon Dieu, on veut te dire merci pour le privilège qu'on a ce matin, le privilège, Seigneur, d'avoir reçu ta parole qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous montre le bon chemin à suivre. Mais Seigneur, tu t'es pas contenté de nous donner ta parole, tu nous as aussi donné ton exemple à travers la personne de Jésus. Et tu nous as aussi donné un conseiller, quelqu'un qui allait nous rappeler toutes ces choses et nous enseigner, le Saint-Esprit. Et Seigneur, c'est notre privilège d'être intime avec toi, de t'avoir reçu à l'intérieur de nous, d'avoir reçu ton Saint-Esprit lorsqu'on t'a accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc ce matin, on veut te prier que tu éloignes de nous toute distraction, que tu ouvres nos cœurs, notre intelligence à vraiment recevoir ce que tu veux nous dire. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin est un peu peut-être bizarre, vous me direz. Ce matin, on n'avait pas de nouveau, mais des fois, il y a un invité qui se présente à l'église et qui s'appelle l'ennemi, le diable. Là, vous me direz, mais pourtant, moi, je ne connais personne qui voudrait inviter le diable à l'église, hein? Même si... Il a de l'air un peu sympathique avec son sourire, là. Il a de l'air... Ça n'a pas de l'air si pire que ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce matin, je veux vous parler de comment, dans nos cœurs, quand on cède à la tentation et qu'on commence à vivre avec le péché, ce péché-là, il ne reste pas à la maison, hein? Qui on est nous suit un peu partout. Donc, si moi, je suis une personne orgueilleuse, si j'ai cédé à la tentation de l'ennemi de vivre dans l'orgueil, cet orgueil-là, je vais l'amener avec moi à l'église. Donc, c'est un petit peu comme si je faisais une place puis j'amenais mon invité, l'ennemi, à l'église. Si moi, je suis une personne menteuse, je ne vais pas juste être menteuse en dehors de l'église. Je vais l'être aussi, malheureusement, dans l'église. Et parfois, il y a des petits péchés qu'on commet qui ont de l'air un peu sympathiques. Hein? Ça n'a pas de l'air si pire que ça. Pourquoi? Parce que le diable est aussi le tentateur. Donc, s'il ne nous proposait pas quelque chose qui avait de l'air alléchant, on ne mordrait pas à l'hameçon. S'il n'était pas capable de déguiser les tentations en des pensées qui viennent de nous ou en quelque chose de justifié. Ah, ouais, il t'a blessé, hein? Ou bien, ah, cette personne-là, elle est comme ça. Bien, probablement qu'on ne mordrait pas à l'hameçon. Mais réellement, l'ennemi de nos âmes ne ressemble pas à ça. Il ressemble un peu plus à ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il a de l'air nettement moins sympathique. Nettement moins sympathique. Donc, pardon. Donc, ce matin, je vous amène dans la parole de Dieu et on va voir comment Jésus nous offre un exemple pour résister à la tentation, pour l'adorer lui et lui seulement, pour lui faire de la place dans notre vie comme chrétien et laisser un petit peu de côté la place peut-être qu'on donne à l'ennemi dans nos relations les uns avec les autres. Donc, on va voir ensemble les trois tentations que Jésus a vécues dans le désert avant de débuter son ministère. Et ce matin, on va les voir une à la fois. Donc, je vais vous faire la lecture de la première. On va la décortiquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. La deuxième, la troisième ensuite, de la même manière. Donc, débutons notre lecture dans Matthieu, chapitre 4. Puis, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui amène Jésus dans le désert et qui permet qu'il y ait une tentation. Jésus n'est pas seul. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je comprends, moi aussi j'aurais eu faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Des besoins légitimes. Jésus avait faim. Est-ce que c'était un péché d'avoir faim après avoir jeûné? Bien sûr que non. Comme enfant de Dieu, on peut avoir toutes sortes de fins. Les fins, c'est des désirs, c'est des aspirations. Et ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises. Une personne aspire à se marier. C'est pas mauvais d'aspirer à se marier. Une personne aspire à avoir une stabilité financière. C'est pas mauvais. Mais parfois, l'ennemi peut utiliser nos besoins légitimes et nous offrir des tentations. Jésus insiste que c'est pas mauvais d'avoir faim, mais il dira à travers sa réponse que la première faim, le premier désir, la première aspiration des chrétiens, ce doit être d'obéir à la volonté de Dieu. Dieu ne vous condamne pas pour avoir des besoins, mais il veut que vous désiriez faire sa volonté avant toute autre chose. Dieu ne nous condamne pas pour nos besoins légitimes, mais il veut lui-même les satisfaire en son temps et d'une manière qui est juste et honorable. Alors, il n'y aura pas de compromis à faire avec la justice, avec lui faire plaisir, lorsqu'on sera dans une position de répondre à ce besoin-là de manière légitime. Dieu a toujours une solution. Et le diable aura toujours une tentation. On pourrait peut-être reparaphraser ce que le diable a dit à Jésus de cette manière-ci. Si tu es, et là j'aimerais vous dire, vous pouvez remplir ce blanc-là par toutes sortes de choses, parce que les tentations que le diable ne viendra pas nous dire, par exemple, si tu es le Fils de Dieu, probablement que ce ne sera pas ce qui va remettre en question dans notre identité. Mais peut-être qu'il va dire, si tu es un vrai homme, réponds à ton besoin par tes propres forces. Si tu es vraiment quelqu'un d'intelligent, si tu es vraiment doué, si tu es vraiment... Et là, ça, c'est vraiment une tentation sur mesure. Mais si on paraphrase un peu ce que Jésus a répondu, il a répondu ceci. « Ce qui me rend heureux, c'est pas seulement de trouver la réponse à mes besoins, mais c'est d'abord de vivre selon la parole de Dieu. » Est-ce que ce matin, c'est ce qui vous rend heureux? Vivre en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que dans votre marche avec le Seigneur, vous demandez au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la joie de te mettre toi en premier. Donne-moi la joie de faire ta volonté. » Parfois, on va à l'église, on a entendu la parole de Dieu, on connaît toutes ces choses-là, mais on n'y prend pas plaisir. Demandez à Dieu de vous donner la joie de faire sa volonté, si ce matin c'est quelque chose qui est lourd et pénible. Parce que la parole de Dieu nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas l'objectif que ce soit difficile de faire la volonté de Dieu. Donc si c'est difficile, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, renouvelle ma joie pour que le diable ne soit pas mon invité dimanche prochain. Alors, on voit dans cette première tentation que le sentiment de manque peut offrir un contexte idéal pour nous de croire des mensonges par rapport à notre identité ou même des mensonges par rapport à notre relation avec Dieu ou aux solutions qu'on a besoin de mettre en pratique. Donc, le sentiment de manque. Dieu, comble-moi. Dieu, comble-moi pour que je puisse mettre de côté la tentation du diable. Voyons maintenant la deuxième tentation. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, c'est-à-dire il transporta Jésus, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Oh, le diable aime la Bible, il utilise la Bible. » Oh, attention, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Regarde Jésus, c'est dans la Bible. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Provoquer Dieu, tu ne provoqueras pas ton Dieu. Jésus nous rappelle qu'on n'a pas besoin de provoquer Dieu pour qu'il réponde à nos besoins. Dieu, c'est un bon papa. Un papa qui souhaite prendre soin de nos cœurs, qui prend soin de nos besoins. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement que Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement que Dieu ne veut pas répondre à notre besoin. Comme enfant de Dieu, on a besoin d'apprendre à attendre. On n'est pas des enfants de 2 ans qui font une crise de bacon parce qu'on ne nous a pas donné tout de suite ce qu'on voulait. On est appelé à être mature. On est appelé à apprendre la patience, la confiance, la foi en Dieu, en ce Dieu-là qui veut répondre à notre besoin. Jésus, par son exemple, nous montre aussi qu'on n'interprète pas la parole de Dieu n'importe comment. Et pour moi, je dois vous dire, cette tentation-là, c'est celle-là qui me fait le plus peur. Que le diable utilise quelque chose de beau et de vrai et qui en torde le sens. Voyons un peu plus provoquer Dieu. On voit un exemple de ça dans le passage d'Exode 17. Et ce matin, on va aller lire un petit peu pour comprendre un petit peu l'essence de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le texte nous dit ceci. « Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait données. » Et ils campèrent à Réphidim. Donc ici, là, on est dans le voyage que les Israélites ont fait en dehors de l'esclavage. Donc ils sont sortis d'Égypte, ils sont en route vers la terre promise. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire! » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, c'est-à-dire qu'il critiquait Moïse. Hein, il parlait dans son dos. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Donc, il se plaigne à Moïse. Il le critique. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites avaient cherché querelle et l'avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Ah, on ne sait pas si Dieu est ici, au milieu de nous. Quand je pense à qu'est-ce que les Israélites ont fait à ce moment-là, dans Exode 17, à comment ils ont critiqué l'Éternel, après que l'Éternel a fait les dix miracles, les 10 plaies d'Égypte pour convaincre les Israélites de sa puissance, il a fait sortir, il a ouvert la mer Rouge, il a refermé la mer Rouge sur leurs ennemis, il a fait apparaître une colonne de feu, une colonne de nuée pour leur montrer le chemin. Et là, les Israélites sont comme, « Mais Dieu, là, es-tu vraiment là? » Moi, je pense que Dieu était un peu comme ça. Il était comme, « Sérieux, guys? » Sérieux, après tout ce que j'ai fait pour vous. Le problème, ce n'est pas la prière. Vous savez, les Israélites disent, donne-nous à boire. Est-ce que Dieu est en colère quand on lui expose nos besoins? Bien sûr que non. Dieu aime qu'on lui présente nos besoins. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est leur attitude. Ils essaient de forcer Dieu à répondre à leurs besoins en leur temps. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu n'aurait pas fait trouver de l'eau à son peuple? Est-ce que vraiment Dieu les aurait amenés dans le désert pour les faire mourir? Bien sûr que non! Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils prêtent des mauvaises intentions à Moïse. Et Moïse, vous savez, il était dans ce contexte le représentant de Dieu. Donc, par la bande, c'est à Dieu qu'ils prêtent de mauvaises intentions. Ils vont douter de la présence de Dieu parmi eux. Sérieux, guys? Sérieux? C'était ça qui était dérangeant pour le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à avoir la foi et à présenter à Dieu nos doutes avec humilité. Seigneur, j'ai de la misère à sentir ta présence avec moi en ce moment. Voudrais-tu m'aider à ressentir ta présence? Seigneur, je ne comprends pas comment tu es à l'œuvre dans cette situation-là. Montre-moi, parle à mon cœur. Nos doutes ne sont pas mauvais en soi, mais si ça devient une forme d'arrogance envers Dieu, une forme de provocation, c'est là que ça devient un problème. Ce que ça nous apprend, c'est que même dans l'abondance de bénédictions, on n'est pas protégé contre la tentation de l'ingratitude. On doit être prudent, frères et sœurs, pour ne pas, encore une fois, inviter le diable à l'église avec nous. On est tenté de peut-être croire des mensonges par rapport aux attentes de Dieu envers nous. Jésus, saute en bas, Dieu va te délivrer. Hey, Jésus dit, moi, je suis pas appelé à être Superman, là, à voler dans les airs sur le dos des anges. Oui, Dieu va faire des miracles à travers Jésus. Mais Jésus, la parole nous dit, va faire que ce qu'il voit son Père faire et il va marcher en unité avec le cœur de Dieu. Donc, la puissance de Dieu, il ne l'utilisera pas n'importe comment. Et il ne va pas sombrer non plus dans la tentation de croire hein, des mensonges par rapport à la parole de Dieu. Je veux parler brièvement, je vais faire une petite parenthèse, un petit détour, et je veux parler brièvement ce matin de comment on interprète la Bible. Vous allez voir, c'est très, très, très sommaire, et là, vous allez rester un peu sur votre faim, mais je veux quand même qu'on en parle un petit peu. Parce que Jésus a su faire la différence. Il a entendu le diable qui lui murmurait la parole de Dieu, mais il a su faire la différence. Je ne sais pas si vous voyez cette plante-là, elle est belle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien l'avoir à la maison? Peut-être. OK. J'ai une mauvaise nouvelle. Elle est belle, mais elle est toxique pour l'être humain. Donc, elle peut vous tuer. C'est nettement moins intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, le diable, hein, il veut tordre la parole de Dieu. Et ça peut avoir l'air beau, l'interprétation qu'il nous offre. Mais ça peut être aussi très toxique pour la vie de l'Église. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on approche la parole de Dieu, on ne l'approche pas n'importe comment. On l'approche dans la prière, en demandant au Saint-Esprit de nous parler, hein? en n'étant pas orgueilleux, mais en étant humble. Donc, ce n'est pas juste par mes propres forces, je prends la Bible et je lui fais dire n'importe quoi, ce que j'ai envie qu'elle dise. Hein? Donc, on doit vraiment s'appuyer sur Jésus. Lorsqu'on vient devant la lecture de la parole, c'est une activité qui est profondément spirituelle, l'étude de la parole de Dieu. Et Jésus nous montre quelque chose, l'intimité avec le Père. Vous savez, il a passé 40 jours à jeûner dans le désert, à prier, connecté à Dieu. Ça l'a aidé à reconnaître hein, comment le diable voulait utiliser la parole de Dieu d'une manière tordue. Lorsque je viens devant la parole de Dieu, je viens avec un cœur hein, qui est introspecté. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde-moi et, si je suis sur une mauvaise voie et montre-le-moi. » Donc, ouvert à se laisser enseigner. J'arrive pas non plus à la parole de Dieu n'importe comment. Les jésuites avaient une pratique qu'ils appelaient l'indifférence. Et là, ça ne veut pas dire, genre, je me fous de la parole de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est, je rends mon cœur indifférent à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, Seigneur, fais taire en moi les désirs qui ne viennent pas de toi. Fais taire en moi les pensées hein, qui ne viennent pas de toi. Donne-moi ce cœur-là qui ne veut faire que ta volonté, qui ne veut comprendre que ta volonté. Donc, l'attitude de notre cœur lorsqu'on arrive face à la parole de Dieu. Il y a une approche saine qu'on peut avoir à la parole de Dieu. Hein, d'un côté, là, peut-être c'est un peu trop petit pour vous, je ne sais pas, vous me direz. D'un côté, il y a le chrétien qui arrive à la parole de Dieu et il dit, « Moi, je sais c'est quoi la vérité. » Donc, ça me permet un peu de critiquer les autres chrétiens et même peut-être Dieu. Hein? Moi, si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça comme ça. « Hey, ce chrétien-là, il croit tellement mal. Ce chrétien-là, s'il était vraiment chrétien, il ferait exactement la même chose que moi. Et à l'autre extrême de ça, on a des gens qui pensent que c'est que les autres qui détiennent la volonté, la compréhension de la parole de Dieu, et qui vont suivre à peu près n'importe quoi. Hein, on voit ça parfois dans les sectes, hein, les gens ils vont faire toutes sortes de choses parce qu'on leur a proposé une interprétation de la parole de Dieu, mais ils ne vont pas nécessairement remettre ces choses-là en question, ils ne vont pas nécessairement se questionner. Et au centre, il y a une approche saine qu'on peut avoir de la parole de Dieu qui dit « Je crois que Dieu communique la vérité par rapport à sa parole à moi, mais aussi à mes frères et sœurs dans l'Église. » Donc, je ne vais pas juste penser, là, m'improviser théologien et dire « Moi, je vais aller expliquer à tout le monde c'est quoi que la parole de Dieu dit et c'est ma propre interprétation ou je ne vais pas juste mettre de côté la parole de Dieu et suivre n'importe quoi que les autres me disent. » Mais vraiment, je vais approcher la parole de Dieu avec respect, avec révérence, mais je vais l'approcher en communauté. Hein, le chrétien qui existe sans l'Église, ce n'est pas un concept biblique. Le Seigneur est venu et il a établi l'Église. Il n'a pas établi des gens comme ça par eux-mêmes hein, qui vivent le christianisme et qui n'ont pas besoin de l'Église. On est appelé à vivre en Église. Donc, l'individualiste, la personne qui critique, c'est un danger pour nous comme Église. Hein? C'est un danger de dire oui à n'importe quoi qu'on croit ou qu'on pense, sans d'abord entrer en relation avec l'Église, avec donc la parole de Dieu par soi-même, mais aussi avec l'Église. Donc, la personne qui critique souvent, elle se détache. Et malheureusement, on voit ça pas juste chez le chrétien dans l'Église, on voit ça parfois chez des pasteurs hein, qui vont dire, moi, le jour où j'ai rencontré un pasteur et je lui demandais à quelle famille d'Église vous appartenez. Il me disait, ben, il n'y a aucune famille d'Église à laquelle je peux appartenir parce que c'est juste moi qui sais comment interpréter la parole de Dieu. Ils ont tous tort. Je dis, oh, attention, danger. On trouve une place dans l'Église. Donc, quand on regarde l'histoire d'Exode, tout a probablement commencé avec une personne, hein, une personne qui croyait avoir compris que Moïse voulait les faire mourir et qui se disait, Dieu est-il vraiment avec nous? Et il a influencé tout le peuple à marcher dans une direction qui était erronée. Comme chrétien, on n'est pas appelé non plus à être des suiveurs. Donc, on n'est pas appelé non plus à simplement se déresponsabiliser et suivre. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec le peuple. Hein? Le peuple a suivi ceux ou celles qui critiquaient. Et tout d'un coup, le texte nous dit tous les Israélites. Ils ne se sont probablement pas levés le matin en ayant tous la même idée. Mais cette idée-là, elle a circulé et plusieurs personnes ont commencé à suivre. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais un film, et c'est basé sur une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire de la nation Osage. Donc, la nation Osage est une nation autochtone qui était aux États-Unis. Et dans les années 20, il y a eu plusieurs personnes de cette nation-là qui ont été tuées. Il y a eu plusieurs meurtres. Donc, je pense un peu plus qu'une vingtaine de personnes sont décédées. Et il y a un passage intéressant, je ne sais pas si ça fait partie de l'histoire vraie ou c'est le cinéma qui l'a ajouté, mais dans le film... ce qu'on comprend, en fait, et là, je m'excuse si vous n'avez pas vu le film, je vais comme vous révéler un petit punch ici, mais la personne, en fait, qui chapeautait ces meurtres-là, c'était l'oncle d'un homme. Et donc, on voit la conversation entre l'oncle et son neveu. Et l'oncle regarde son neveu, lui dit, je ne sais plus c'est quoi son nom, on va l'appeler Jack, pour le fait qu'il a besoin d'un nom, il dit « Jack ». Est-ce que tu crois à la Bible? Et Jack dit, oui, moi je crois à la Bible. Il dit, tu sais que dans la Bible, Dieu a fait des miracles? Il dit, oui. Mais il lui dit, tu sais, aujourd'hui, Dieu ne fait plus de miracles comme il en faisait avant. Donc, si tu veux là, que personne sache hein, que tu as demandé à telle personne de commettre un meurtre, il va falloir que tu engourdisses ton épouse, que tu la tues à petit feu, parce qu'elle commence à se douter de quelque chose. Donc, il lui propose une interprétation de la parole de Dieu et une application dans sa vie qui n'a en fait rien à voir avec le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne nous appelle pas à cacher notre péché, à commettre un autre péché hein, pour se sortir du pétrin. Mais il nous appelle à confesser pour pouvoir être libérés de l'emprise de ce péché-là dans notre vie. Et lorsque je pense à ce qu'on peut faire comme Église, je pense à ceci. Voyez-vous, il y a des hommes et des femmes qui se tiennent par la main ici et qui avancent. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, hein, on le fait comme ça en Église. Lorsqu'on cherche la volonté de Dieu pour notre vie, on le fait comme ça. En avançant ensemble, en unité, comme Église. Parce qu'au fond, le Saint-Esprit me parle, mais il parle aussi aux autres. Il communique sa volonté à travers mes frères et mes sœurs. Et on veut marcher avec révérence devant le Seigneur. Si on continue dans le texte, on voit la dernière tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, c'est-à-dire qu'il transporta Jésus. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent et le servirent. L'ennemi nous propose souvent, comme dans ces tentations-là, des échanges dangereux. Fais ça pour moi, je vais te donner ça en retour. On ne voit pas vraiment dans les bulles ici, mais c'est quand même comique. On voit le monsieur qui dit « Monsieur, je suis heureux de vous voir au diable » et le diable qui lui répond « Brave serviteur, hein? Bonjour, je suis contente de te voir moi aussi. Je suis contente de te voir te prosterner. » En présence de besoins et d'aspirations légitimes, le diable nous propose toujours des échanges. En fait, lorsqu'on fait souvent un ministère de délivrance, on aide les gens à réaliser « OK, aujourd'hui, tu luttes avec ce péché-là. Comment ça a commencé? Hein? Quel désir ou quel besoin l'ennemi t'a proposé de satisfaire à travers ce péché-là? » Alors, peut-être l'ennemi vous dit quelque chose comme ceci. Hein? « Tu auras de l'argent si. Tu seras aimé si. » Et là, c'est là que, après ceci-là, c'est là que le péché entre. Hein? Peut-être tu vas avoir de l'argent hein, si tu voles ou si tu fraudes le gouvernement en déclarant pas les choses sur ton revenu d'impôt. Ou peut-être tu vas être aimé si tu dis pas la vérité. Ou bien tu vas être aimé si hein, tu te mets en couple avec n'importe qui ou avec une personne qui est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, il y a toutes sortes d'échanges comme ça que l'ennemi nous propose. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on entre dans un esclavage spirituel graduel. Hein, vous voyez, l'ennemi nous propose des petits « prosterne-toi devant moi ». Et au début, hein, il fait juste prosterner sa tête un petit peu. Et puis là, tout d'un coup, il se courbe le dos et après ça, « prosterne-toi devant moi ». Ben là, tout d'un coup, hein, on a une main à terre et là, whoops, on est rendu les deux mains à terre, les genoux et finalement à plat ventre. Le diable, il est sournois. Hein, il va nous proposer des petits compromis, mais plus qu'on avance, plus que les compromis sont grands. Et ce n'est pas le désir de Dieu qu'on soit des chrétiens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas le désir de Dieu hein, que notre caractère soit tellement en manque de sanctification, finalement, qu'on amène des conflits à l'Église, qu'on amène toutes sortes de problèmes dans l'Église. Et là, je suis sûre que vous avez des exemples qui vous viennent en tête. Hein? Je pourrais vous parler d'un exemple, hein, par exemple, un couple dans l'église. Et en fait, je ne sais pas si je devrais même mettre des exemples. Peut-être que je vais m'abstenir d'exemples. On ne veut pas être traumatisé non plus par le genre de choses qui peut se faire dans l'église. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on se mette à plein ventre devant l'ennemi. Au contraire, Dieu a un plan pour nous. Et c'est là que je vais vous amener à ma dernière diapositive ce matin. La Bible nous dit qu'après la tentation, Jésus a été servi par des anges. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'haïrais pas ça, tu sais, être servi par des anges. C'est quand même cool, non? C'est peut-être quelque chose d'encourageant aussi pour nous ce matin. Parce que la tentation, la Bible nous dit que quand il y a une tentation, Dieu a aussi prévu une porte de sortie pour nous. Et à travers l'exemple de Jésus, on voit que Dieu a aussi une bénédiction pour nous. Donc, ce que Dieu te donne, mon frère, ma sœur, ce matin, lorsque tu résistes à la tentation, c'est bien meilleur que ce que tu aurais pu recevoir en répondant par toi-même à ton besoin. Jésus, s'il avait transformé hein, la pierre en pain, ben, il aurait juste eu un morceau de pain à manger toute seule dans un coin. Mais là, il est servi par des anges. Je ne sais pas qu'est-ce que les anges lui ont servi, mais s'il y en avait plusieurs, il y avait probablement du choix. Ah, ça devait être cool quand même comme repas. Puis il ne l'a pas mangé toute seule. C'est mieux ce que Dieu t'offre que si toi, tu forçais Dieu à te secourir ou si tu tordais sa parole. Même si j'appelle un chat un chien, ça reste quand même un chat. pas vrai. Si on tord la parole de Dieu pour arriver à ses fins, au final, on n'aura pas plus que ce qu'on voulait avoir, que ce qu'on était capable de s'offrir. Mais ce que Dieu est capable de nous offrir est d'au-delà supérieur. Ce que Dieu peut nous offrir est encore mieux que ce qu'on peut avoir en échangeant notre droiture, notre intégrité, en qui on est comme chrétien, contre l'injustice que le diable nous propose. Ça ne nous rend pas heureux, finalement, le péché. Ça nous met dans le tracas. Et souvent, on dira que les intérêts, la dette qu'on bâtit envers Satan, ça fait beaucoup plus mal que d'attendre la provision de Dieu, que de faire confiance à Dieu. Parce qu'il ne nous dira pas d'emblée, si tu te prosternes devant moi, j'avais oublié de te dire, tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ton travail, puis tu vas être malade aussi. Il ne nous dira pas ça, n'est-ce pas? Alors, faisons confiance à Dieu, frères et sœurs. Et ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on puisse regarder avec espérance comment Dieu va pourvoir à nos besoins d'une manière qui l'honore et que nous puissions avoir en nous ce même cœur que Jésus avait pour reconnaître quand il est le temps d'attendre la provision de Dieu. Pour reconnaître comment parfois l'ennemi peut essayer de tordre nos pensées ou nos perceptions. Pour reconnaître aussi comment parfois il veut nous offrir des échanges qui ne sont pas avantageux. Alors, frères et sœurs, prions et invitons le Seigneur à se manifester en nous dans ces moments de tentation et à nous aider à reconnaître aussi ces moments de tentation-là dans notre vie. Afin qu'en entrant ensemble comme Église, dans nos réunions le dimanche matin, dans toutes nos autres réunions et dans notre vie de tous les jours, on puisse vraiment refléter sa gloire à lui. Éternel mon Dieu, on te remercie parce que toi-même, tu as choisi de vivre la tentation. Tu as vécu la tentation pour nous montrer ça ressemblait à quoi être victorieux au milieu de la tentation. Seigneur, merci parce que tu nous offres cet espoir-là que tu pourvois toujours à nos besoins, finalement, et de manière souvent au-delà de nos attentes. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous au milieu de la tentation. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur Dieu, que ce soit qu'à toi qu'on fasse de l'espace dans notre cœur, dans notre vie, dans notre communion fraternelle dans l'Église. Et c'est en ton nom puissant que nous prions. Amen.